Regard sur la philosophie. Une chronique de Damien Leguet sur Canal Académie.
Je voudrais consacrer notre regard sur la philosophie d'aujourd'hui à Albert Camus. Alors, il se trouve que vient de paraître, ou qu'est en train de paraître, les deux derniers tomes de l'œuvre complète d'Albert Camus en Pléiade, le tome 3, donc 1949-1956, qui fait 1504 pages, et le tome 4, donc 1957-1959, qui fait 1600 pages. Voilà. Et ainsi se clôture donc la grande aventure de Camus en Pléiade, où la Pléiade a considéré qu'effectivement, il fallait reprendre de manière chronologique et en supprimant les divisions qui existaient préalablement dans la Pléiade entre, disons, la littérature et le théâtre d'une part et puis les essais d'autre part, qu'il fallait supprimer cette distinction-là pour remettre dans sa chronologie toutes les œuvres de Camus, y compris les œuvres relatives au théâtre, c'est-à-dire les adaptations faites par Albert Camus des œuvres des autres. Je pense en particulier donc à ce Requiem pour une nonne de Faulkner qu'il avait mis effectivement en scène. Alors pourquoi Albert Camus ? Alors nous venons de célébrer en ce moment là les 100 ans de Claude Lévi-Strauss. Et il se trouve qu'on considère que Camus, effectivement, qui est mort il y a belle lurette, appartient à une autre époque. Mais si Albert Camus avait vécu, il aurait aujourd'hui 95 ans. Et il n'aurait que 95 ans. Il est né effectivement le 7 novembre 1913 et mort accidentellement dans un accident de la route, bêtement, pourrions-nous dire, le 4 janvier 1960 et il avait 46 ans. Et deux ans avant, il venait de recevoir le prix Nobel de littérature. Alors pour commencer, je voudrais vous donner à lire, à entendre deux textes magnifiques qui ont été faits sur lui. Le premier, c'est un texte de François Mauriac, académicien aussi, qui se plaignait d'être toujours sollicité au moment où les uns et les autres venaient à mourir, mais qui en a fait presque, d'une certaine façon, un métier, enfin une occupation, enfin une habitude. Enfin, à chaque fois qu'effectivement un grand venait à mourir, comme lui survivait à tout le monde, il faisait des articles. Et donc, dans le Figaro littéraire du 16 janvier 1960, il fait un article assez beau sur Albert Camus et il dit la chose suivante. « Maintenant qu'il ne bouge plus, qu'il ne bougera plus jamais, il y a une première évidence à laquelle ses adversaires, ses ennemis, s'il en avait, doivent se rendre. C'est la place considérable qu'il occupait dans la pensée et dans le cœur de beaucoup de jeunes hommes. Il n'y a pas à ergoter, il ne sert à rien de contester l'importance de son œuvre. » Et donc, Mauriac considère effectivement que cette œuvre est importante. Et pourquoi, et c'est là l'hommage suprême, pourquoi Albert Camus occupait une place importante dans le cœur et dans la pensée de ces jeunes gens, François Mauriac continue, « En vérité, les jeunes gens se moquent des mots qui ne sont que des mots. Ils attendent d'un auteur qu'il soit un homme parlant à d'autres hommes de la condition humaine. C'est cela qui fait l'importance d'un écrivain, la réponse qu'il donne à l'apparente absurdité de la vie. Le jeune homme a faim de moralité, quoi qu'on en pense. C'est l'honneur de Camus de n'avoir écrit que pour donner une réponse. » Voilà, et je crois qu'effectivement, ce premier hommage-là nous semble tout à fait pertinent. Camus, effectivement, donne une réponse, et donne une réponse qui, nous le verrons, semble toujours et est toujours d'actualité. Le deuxième texte, qui est dans, évidemment, les textes de la Pléiade, c'est un article d'Albert Camus, c'est un texte d'Albert Camus en 1956, quand, en 1956, il rend hommage à Salvador de Madariaga, qui est un intellectuel espagnol qui est parti en exil après l'arrivée au pouvoir de Franco. Et il dit cette phrase que l'on peut, à juste titre, retourner d'une certaine façon, que l'on peut dire soi-même à l'égard d'Albert Camus. Et donc, Albert Camus parle, et donc nous pouvons parler derrière lui au sujet d'Albert Camus. « Ceux qui se sentent faits d'abord pour admirer et pour aimer, et qui, dans le désert du monde contemporain, risquaient de périr de faim et de soif, ont une dette de reconnaissance infinie envers tous ceux qui, en des temps désorientés, leur ont offert une image digne et fière de l'homme et de l'intellectuel. » Et je voudrais, donc, dans ce regard sur la philosophie, je voudrais insister sur trois points qui me semblent être tout à l'honneur d'Albert Camus et qui, d'une certaine façon, laissent à penser que nous avons, nous, encore aujourd'hui, une dette de reconnaissance infinie à son égard. Le premier point porte sur l'honneur des intellectuels. Alors, il faut bien se souvenir que dans les années 50, effectivement, beaucoup d'intellectuels, Sartre et beaucoup d'autres, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, étaient proches du Parti communiste et de ce mouvement communiste qui considérait qu'il n'y avait que lui susceptible de changer définitivement le monde et de renverser toutes les injustices qui existaient par ailleurs. Donc lui, dans les années 50, quand beaucoup s'étaient embrigadés dans ce qu'on pourrait appeler le glacial parti de la justice meurtrière, hein, qui était celle effectivement du mouvement de l'histoire, quand il était impératif de prendre parti, de s'embarquer dans le train de l'histoire, de justifier même, comme l'a fait Merleau-Ponty, les goulags nécessaires, lui, donc, Albert Camus, dénonçait ce qu'il appelait les bouchers de la vérité et dénonçait aussi ce qu'il appelait ce socialisme des potences. Il faut se mettre en évidence, il faut se remettre à l'esprit cette époque particulière où, effectivement, il fallait impérativement, de manière combinatoire, prendre parti et prendre parti pour le parti de l'avenir, pour, effectivement, tous ceux qui pensaient que les lendemains chanteront. Et donc, si on avait une position un peu hésitante, un peu mitoyenne, incertaine, mélangée, mixte, eh bien, on était sans doute rejeté de l'autre côté, du côté des tièdes, et ça a été effectivement, d'une certaine façon, sa position. Et quand il dénonce ceux qui mentent pour la bonne cause, ceux qui disent, je le cite, que le ciel est bleu quand il est gris, Albert Camus les accusait à l'époque de prostituer les mots. Et cette sauvegarde des mots, hein, cette sauvegarde de la vérité des mots, cette sauvegarde de du ciel bleu quand il est bleu, hein, ne peut que nous faire penser à George Orwell, qui effectivement, à pareille époque, disait des choses semblables. Alors il faut se souvenir que cet Albert Camus, qui était philosophe mais qui n'avait pas tous les diplômes pour cela, qui venait de l'Algérie lointaine, était considéré par beaucoup comme un peu hérétique, qui était jugé par beaucoup comme hérétique. Hérétique, et encore plus hérétique, quand il disait, ça a été un de ses leitmotifs, et je cite la phrase qui me paraît s'imposer à tout moment, et en particulier dans ces moments-là, « Aucun des maux auxquels prétend remédier le totalitarisme n'est pire que le totalitarisme lui-même. » Et disons, pour une phrase comme celle-là, donc il se situait d'une certaine façon dans le respect du politique. Il se situait dans le respect du présent, qui ne pouvait pas être ignoré ou même écrasé par les promesses du futur. Donc pour tout cela, il fut rejeté par une gauche certaine d'elle-même et assurée de l'avenir qu'elle promettait. Il fut dénoncé, il fut vomi d'une certaine façon pour sa tiédeur. Et lui n'a cessé, dans son langage, de sa manière, de dénoncer à la fois le cynisme, à la fois les compromissions, à la fois le conformisme des moutons, et conformisme qui est devenu de plus en plus celui des loups. Il a rejeté la haine et considéré que ce qui était à l'encontre, ce qui était contre cette haine, ce n'est pas l'idéalisme timide, mais, je le cite, la justice généreuse. Alors ça, c'est le premier point. Donc, l'honneur des intellectuels, l'honneur de l'homme qui, effectivement, a fasciné, à juste titre, des jeunes gens qui l'ont écouté, qui l'ont suivi, qui ont été attentifs à ce qu'il disait. Le deuxième point, c'est qu'il était l'honneur aussi d'une certaine gauche. Alors, effectivement, il a été considéré par beaucoup comme traître à la cause. Mais était-il traître à la cause ? Non, évidemment. Non seulement parce qu'il était indépendant, mais aussi parce qu'il a affirmé son appartenance à la gauche. Il était de gauche, disait-il, malgré moi et malgré elle. Et il n'a cessé de s'en prendre, je le cite, au rite sanglant et monotone de la religion totalitaire. Mais cette critique, qui est une critique, disons, libéral, hein, qui est, disons, de l'autre camp, hein, du mauvais camp, entre guillemets, Cette critique l'a-t-elle fait basculer dans l'autre camp honni par toute la bien-pensance ? Non. Il est resté de gauche, dans une gauche minoritaire, dans une gauche humaine, dans une gauche non totalitaire, qui, disons, pour le faire vite, parce que nous avons reçu effectivement ici Jacques Julliard, qui trouvera effectivement auprès de cette seconde gauche, de ces intellectuels du Nouvel Observateur, pour ne pas les citer, des relais puissants. Alors, au nom de quoi, et c'est la question qu'on lui demandait, qu'on lui posait, au nom de quoi combattre ce totalitarisme ? Au nom de quoi combattre ce mensonge ? Eh bien, il répondait, sans pour autant se rallier, eh bien, il répondait au nom d'une demi-vérité. La demi-vérité, c'est la démocratie libérale. La démocratie libérale qui n'est pas parfaite, qui est à améliorer, qui est susceptible d'aménagement pour prendre en compte la justice. Donc, une demi-vérité. Et j'aime beaucoup cette expression d'une demi-vérité qui laisse à supposer que, effectivement, comme le disait Albert Camus, le démocrate est celui qui est modeste, qui tente à ne pas savoir, qui met en place les éléments lui permettant d'avancer sans pour autant avoir des certitudes qui seraient susceptibles d'écraser et les autres et la pensée des autres. Demi-vérité. Quand, en décembre 1949, sort donc Les Justes, donc sa pièce de théâtre, il fait là, dans cette pièce de théâtre, le portrait de révolutionnaires russes. Mais non pas de révolutionnaires russes de 1919 ou 1920, mais des révolutionnaires russes de 1905. Ceux qui avaient encore des scrupules, ceux qui hésitaient, ceux qui ne savaient pas, ceux qui pensaient qu'il fallait peut-être remettre à demain un attentat contre un membre de la famille impériale si cet attentat pouvait, comme dommages collatéraux, atteindre un enfant, une femme ou quelqu'un qui était innocent. Donc cette mise en scène de ces justes, de ceux qui avaient des scrupules, qui hésitaient, qui ne savaient pas, qui préféraient effectivement reporter à demain quelque chose plutôt que de commettre l'injustice, a été aussi développée par Camus en 1951 dans « L'homme révolté », où il cherche, d'une certaine façon, à la fois à légitimer la révolte, avec sa formule fameuse « je me révolte, donc nous sommes », mais en même temps à écarter ce qu'il appelle les crimes logiques. Et cette posture, là aussi, on est dans la demi-vérité, on est dans la critique, on est dans la révolte qui ne va pas jusqu'à l'injustice, cette demi-vérité, cette posture a fait en sorte que, après l'homme révolté, les communistes ont considéré qu'il était un peu timoré. Et surtout, les communistes détestaient ceux qui appréciaient son livre, à savoir la droite. Et Sartre lui-même a, d'une façon, claqué la porte à Albert Camus, considérant qu'on ne pouvait pas mettre dans le même sac Hitler et Staline. Troisième point qui rend hommage à cette actualité d'Albert Camus, insiste ou insistera sur, d'une certaine façon, la pensée d'Albert Camus qui tente à restituer dans ses romans et dans son théâtre une forme de pensée de ce qui est complexe, de la nuance de la pensée, de l'épaisseur des sentiments humains. L'époque, la sienne, était plutôt aux pensées simples, binaires, totalitaires, qui excluaient plutôt qu'il n'incluait. Et lui, Albert Camus, a toujours essayé de penser cette complexité qui est une complexité relative à la nature humaine et à l'homme. L'homme qui est, dit Albert Camus, taraudé, travaillé par cette vocation humaine et artistique, taraudé donc par à la fois le consentement à la beauté du monde et en même temps le refus de la cruauté et des injustices du monde. Et entre les deux, il faut d'une certaine façon tenir cette difficulté-là, le consentement à la beauté du monde et en même temps la dénonciation, le refus de l'injustice et des cruautés. Il faut n'être ni dans le retrait, ni dans la tour d'ivoire, ni embrigadé dans l'époque. Et donc il n'est ni pour un art pur, donc pour une posture de l'homme pur, ni pour un art ou un individu ancillaire, c'est-à-dire asservi, qui sert une cause qui le dépasse, certes, mais qui le réduit, qui limite la multiplicité qu'il est. Et donc, on est là, toujours dans cette difficulté mal comprise à l'époque et que nous comprenons mieux aujourd'hui, de tenir ensemble des ambitions contradictoires et qui sont celles que nous sommes, nous, individus. Et il faut lire dans les deux tomes que nous propose la Pléiade cette, je trouve, magnifique préface donnée en 1955 aux œuvres complètes de Roger Martin Dugard, qui était paru à ce moment-là, dans la Pléiade. Et là, il constate, il y a des effets d'épaisseur, de compréhension, de, nous ne sommes pas dans une pensée ramassée sur elle-même et aussi aiguisée que la lame d'une guillotine. Nous sommes là dans une pensée large, humaine. Là, il constate donc que le seul vrai progrès est d'apprendre à avoir tort tout seul. Et donc, il milite pour la patience de faire et de bâtir. Il faut se souvenir, tout cela est rappelé dans les deux tomes de la Pléiade en question, il faut se souvenir de l'amitié qui l'a unie à René Char, à sa découverte des œuvres de la philosophe Simone Veil, qui était morte pendant la guerre. Et il fit connaître cette pensée, il fit connaître cette philosophe, il l'édita. Il faut se souvenir aussi donc des adaptations. Nous avions parlé de Faulkner, mais aussi des possédés d'Ostoïevski. Et c'est surtout l'idée suivant laquelle Camus n'est pas seul, au sens où il sait qu'il n'est pas seul. Et alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire la très belle lettre écrite au moment où il reçoit le prix Nobel. Lettre écrite donc à Louis Germain, qui est son professeur des collèges et qui l'a, d'une façon, sauvé. Pourquoi ? Parce que Louis Germain, donc, a fini par convaincre, qui était son instituteur, a fini par convaincre tout le monde que le petit Albert, de milieu modeste, devait suivre ses études. Et donc, plutôt que d'en rester à la posture qui est la sienne de l'intellectuel reconnu, auréolé de son prix Nobel, et qui oublie tous ceux qui, d'une certaine façon, l'ont aidé, mais bon, c'était autrefois, etc. Donc, aussitôt qu'il a cette nouvelle, il écrit, donc c'est dans les annexes du discours de Stockholm au moment de son prix Nobel, il écrit aussitôt à Louis Germain, donc son instituteur. « On vient, dit Albert Camus, de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, dit-il à Louis Germain, sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi et pour assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivant chez l'un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. » Je trouve cette lettre absolument magnifique, surtout dans l'idée suivant laquelle Camus a conscience de ses dettes. Il honore ses dettes, il honore ses dettes à l'égard de Louis Germain, et c'est toujours présent dans son œuvre, c'est « sait que le monde est fragile, que le monde peut se défaire, qu'il peut se disloquer en mille morceaux, et que l'intellectuel, l'homme, se doit, d'une manière ou d'une autre, de tenir ensemble tous les morceaux de ce monde assailli par toutes les forces qui, d'une certaine façon, sont prêtes à le faire éclater. Tel est, me semble-t-il, et c'est là ma conclusion, la magnifique et belle leçon d'Albert Camus, à la fois le souci de comprendre sans compromission, et Dieu sait qu'il y en a eu à son époque, et de vivre en même temps avec responsabilité et avec une forte conscience de la dette que l'on doit à l'égard de ceux qui vous ont aidé et précédé. Et pourquoi ce souci de comprendre d'une part et ce souci de la responsabilité d'autre part? Pour, et je cite Albert Camus, pour prendre en charge sa propre vie avec son poids de fautes et de grandeur. Telle est, me semble-t-il, la leçon d'Albert Camus, et telle est, me semble-t-il, la raison pour laquelle Camus est toujours vivant. Merci.